L'invité des matins est aujourd'hui François Dupuis. Vous êtes sociologue. Vous publiez ces jours-ci La fatigue des élites, le capitalisme et ses cadres aux éditions du Seuil. Un texte court, incisif, qui dresse un constat en forme de paradoxe. Les cadres, les élites de l'entreprise, ceux à qui le capitalisme promet l'accomplissement et la réalisation de soi dans le travail, connaissent de nouvelles formes de souffrance. Une souffrance qui va bien au-delà de ce qu'on appelle de manière générale le malaise des cadres. Vous l'avez dit dans la première partie de notre entretien, qui est liée aux transformations profondes de l'organisation du travail ces dernières décennies. Une question provocatrice, on s'était arrêté là-dessus, vous affrontez l'objection dans votre livre François Dupuis, est-ce que ce que vous décrivez, cette fatigue d'être soi, des cadres contemporains, est-ce que ce n'est pas un problème de riche?
D'abord, la fatigue d'être soi, l'expression est d'Alain Ehrenberg, elle est...
Autre sociologue que vous citez dans votre livre.
Voilà. C'est une très très belle expression. Alors, est-ce que c'est un problème de riche? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les phénomènes que je décris liés aux transformations des organisations, on les observe dans les pays occidentaux. Si je revenais par exemple sur ce que disait Alexandre Adler sur la Chine, on n'observerait pas du tout en Chine les mêmes phénomènes. Voilà. Bien. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans le fond, vous observerez une chose. Excusez-moi de le formuler comme ça. La souffrance, c'est comme l'amour. Ça n'a pas d'âge. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes, ça n'a pas de condition. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes effectivement dans une situation qui, d'un point de vue de votre rémunération ou autre, est une situation privilégiée, meilleure que les autres, que vous ne ressentez pas profondément les phénomènes qui vous affectent lorsque vous travaillez. Et moi, je me suis placé pour décrire cette souffrance de cette population d'un point de vue. J'ai dit, l'entreprise est en train de la perdre, cette population. Elle en aura besoin, et d'autant plus en aura-t-elle besoin que le jour, si cela arrive, où le marché du travail sera retourné, le jour où la rareté à nouveau sera celle des gens que l'on veut embaucher, alors l'entreprise retrouvera-t-elle à ce moment-là sur le marché du travail les gens dont elle a besoin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, problème de riche, non, au sens où la souffrance n'est ni pauvre ni riche, elle est.
On a beaucoup parlé de cette question-là, notamment autour des 35 heures. On a beaucoup travaillé sur la question de savoir si le travail libère ou s'il a servi. Vous partagez cette manière de poser le problème, François Dupuis?
Écoutez, là aussi, je vous renverrai à Robert Castel, à ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? Bien sûr que le travail libère, toute l'histoire de nos sociétés est un travail qui libère, parce que c'est un travail qui affilie, je reprends l'expression de Castel, qui affilie, au sens de l'affiliation, pas qui avilie, hein, qui affilie. Et à partir du moment où il affilie, il donne sur la vie que vous allez avoir une forme de visibilité qui est totalement utile pour construire votre existence. D'accord. Mais il peut arriver un moment, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, où on a le sentiment qu'on a peut-être atteint le sommet de la courbe et où le travail déprotège. C'est-à-dire que par rapport à ce que l'on a pu en tirer, eh bien, on va s'apercevoir que ce que l'on en tire aujourd'hui est probablement inférieur à ce qu'on en tirait précédemment. Non pas simplement en termes de salaire. Et d'ailleurs, moi, je remarque un certain nombre de paradoxes qu'on pourrait mettre autour de la table et discuter. On a longtemps critiqué le taylorisme, par exemple.
On va le faire. On va ouvrir la discussion dans la dernière partie des matins.
Mais simplement, je voulais noter, on découvre aujourd'hui que le taylorisme était extraordinairement protecteur, de la même façon qu'on a longuement critiqué le salariat. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que le salariat était extrêmement protecteur. La preuve, c'est qu'on cherche à en sortir à tout prix des catégories de cette situation de salariés. Donc, l'évolution économique que l'on appelle la mondialisation, qui est à l'origine des phénomènes que moi je décris, nous amène à nous reposer un certain nombre de questions par rapport à des certitudes que l'on pouvait avoir précédemment.
Et est-ce qu'on rencontre le même problème, parce que là on a parlé de l'entreprise, on a parlé de l'univers de la sphère privée, est-ce que c'est le même problème qui se pose dans l'administration, dans la fonction publique?
Ah, mais alors, vous voyez, tout à l'heure quand j'ai parlé des organisations, des entreprises qui dominaient leurs clients, n'est-ce pas, et qui, comme elles dominaient leurs clients, ne s'organisaient que par rapport à elles. Donc, pour utiliser un terme, étaient marquées par l'endogénéité de tous les critères qu'elles utilisent. La fonction publique a pousser l'endogénéité à son point maximal. C'est-à-dire que tous les principes d'organisation de la fonction publique sont tournés vers les agents et ne sont pas tournés vers les, on va même pas dire clients, on va dire les pétitionnaires, les assujettis, les contribuables et tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous demandez à cette bureaucratie qui a été tricotée de la façon la plus étroite qu'il soit de se détricoter, par définition, c'est beaucoup plus complexe. Vous voyez, je vais en prendre juste un exemple que je cite dans ce petit livre. Un homme hommes politiques que je ne citerai pas avaient une
allez-y, à la différence des entreprises, cela on a le droit de les citer à l'antenne.
Je crois que c'est Alain Juppé, si je me souviens bien, disait un jour, il serait temps d'adapter les horaires des policiers à ceux des délinquants, ce qui est une très 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 bonne formule, parce que ça veut dire, l'administration publique aujourd'hui, chaque fois que vous dites qu'il faudrait que le service soit meilleur, je ne sais pas quoi, elle vous répond, oui, mais dans ce cas-là, il faut plus d'agents. Alors, pourquoi? Et sauf que si aujourd'hui, si on dit à Monsieur Danone, mais votre yaourt, il est trop cher, il faudrait qu'il vaille 50 centimes d'euros moins cher, il peut dire, ça n'est pas possible. Non, il n'est pas dans cette situation. Il va falloir qu'il trouve le moyen de réduire le coût de son yaourt. Bien, c'est comme ça. Dans la fonction publique, on vous dit toujours, mais si vous voulez mieux, ce sera plus. Et pourquoi on vous dit, si vous voulez mieux, ce sera plus? C'est parce que on n'est pas à même de faire changer les façons de travailler. Mais on y arrivera. On sera bien obligé d'y arriver.
D'où vient le blocage, selon vous, d'ailleurs?
Mais le blocage vient du fait que, voyez, vous avez eu un statut général de la fonction publique qui a été établi à la fin de la guerre. Si vous y réfléchissez, la logique du statut général de la fonction publique, c'était de protéger les fonctionnaires, mais de les protéger contre l'arbitraire politique. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le mieux, ce serait de protéger les politiques des fonctionnaires. D'ailleurs, on pourrait dire que ça s'est inversé depuis. Petit à petit, ce statut s'est totalement rigidifié autour du thème « protégeons les fonctionnaires de tout ». De tout arbitraire. Alors, dans la fonction publique, qu'est-ce qu'on appelle l'arbitraire? C'est le fait que si moi je suis votre chef, je vais dire ce que t'as fait comme boulot, c'est bien. Ou c'est pas bien. Vous voyez, moi j'étais quand
l'arbitraire, c'est celui de l'évaluation. C'est pourtant que la question est difficile à mettre en place pour éviter justement le fait du prince et les caprices.
Mais, ami, l'arbitraire, ça n'est jamais que l'exercice du libre arbitre. Alors, si vous voulez me dire qu'on va bâtir des organisations dans lesquelles il y aura aucun libre arbitre, soit. Mais voyez, je voudrais vous citer. Moi j'étais chercheur au CNRS. J'ai commencé ma carrière ici. Vous savez, quand j'étais chercheur au CNRS, au début, j'avais mon 16 réglementaire, quelle que soit la recherche.
Alors, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est?
16, c'était ma note. Et que je fasse d'ailleurs de la recherche ou pas, j'avais 16, n'est-ce pas? Et puis un jour, mon patron de recherche, il avait écrit, vous voyez, François Dupuis est un des jeunes chercheurs brillants de sa génération. L'année suivante, il écrit la même chose. La troisième année, il écrit la même chose. Ce patron en question n'était pas n'importe qui, c'était Michel Crozier. À la troisième année, je vais le voir. Je dis, pourquoi vous écrivez toujours la même chose? Il regarde, il me dit, oh, j'écris ça pour tout le monde. C'est-à-dire que, voyez, la note est devenue un droit, elle n'est absolument pas la reconnaissance d'un travail accompli. À partir de ce moment-là, vous en arrivez à des systèmes qui sont des systèmes totalement verrouillés, et quand vous voulez les adapter à une évolution du monde, il est d'autant plus difficile de le faire qu'ils se sont complètement verrouillés. Donc, la fonction publique en général et la fonction publique française posent un véritable problème d'adaptation de nos organisations au monde tel qu'il est.
On va continuer à en parler en ouvrant la discussion dans un instant, François Dupuis, dans la dernière partie des Matins de France Culture, ce sera juste après la chronique d'Olivier Duhamel. Dernière partie des Matins, débat en compagnie de notre invité, le sociologue François Dupuis, et des chroniqueurs de l'équipe, Olivier Pastret, Alexandre Adler et Olivier Duhamel. François Dupuis, vous parliez à l'instant de ce qui se passait dans la fonction publique, et au fond, comment analysez-vous la baisse, ou en tout cas la désyndicalisation, le faible taux de syndicalisation qui existe en France? Ce que vous décrivez comme phénomène, ça devrait pourtant inciter aux mobilisations collectives.
Confondez pas syndicalisation et mobilisation collective, ce sont deux phénomènes différents. Si vous y Olivier Duhamel disait que nous n'aimions pas le droit. Alors, il faut repartir du droit pour comprendre le faible taux de syndicalisation. Rien dans la loi française n'est porteur de syndicalisation. Et la loi française amène même plutôt les gens à ne pas se syndiquer, parce que, sans revenir sur les détails, en particulier sur la loi de 68 sur les sections syndicales, et sur tout ce qui existe sur les accords d'entreprise, on sait très bien dans notre pays que l'on peut être d'un anti-syndicalisme primaire, secondaire et supérieur, et en même temps bénéficier de tout ce qu'obtiennent les organisations syndicales. Vous pouvez donc expliquer à votre patron, si vous le voulez, que vous êtes fondamentalement contre cette grève et ces organisations syndicales pourries, et en même temps bénéficier de tous les avantages qu'elles obtiennent. Donc quand vous êtes dans un système comme ça, je vois pas bien pourquoi vous vous syndiqueriez. Alors du coup, vous entrez dans un cercle vicieux où les organisations syndicales sont faibles. Comme elles sont faibles, elles sont en compétition les unes avec les autres, ce qui les amène quelquefois à se radicaliser, etc., etc. Et du coup, vous voyez bien que lorsque des problèmes durs se posent à des catégories de population, soudainement, elles trouvent des formes d'organisation qui sont des formes à côté des organisations syndicales. Par exemple, les collectifs, ce que vous avez vu avec les infirmières, ce que vous avez vu avec toutes ces catégories qui estimaient par ailleurs que les organisations syndicales ne les défendaient pas assez. Mais vous savez qu'un des paradoxes que l'on observe et que je mentionne dans le livre, c'est que nous ne sommes pas loin d'arriver à une situation où les cadres seront la population la plus syndiquée, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient prêts à une action collective. C'est différent.
En tout cas, ces formes de solidarité, vous les voyez s'inventer dans cet univers des cadres ou en tout cas des classes?
Non. Non. Alors là, non. Vous voyez, là, je crois que l'on peut répondre clairement non. Aujourd'hui, ce qui caractérise les cadres, c'est le sauve-qui-peut individuel. C'est moi, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Et quand vous regardez, excusez-moi d'utiliser ce langage que je ne devrais pas utiliser, quand vous regardez aujourd'hui des jeunes cadres qui arrivent sur le marché du travail, ils ne disent pas « je vais rejoindre une collectivité, je vais participer finalement à la croissance de cette entreprise, etc. » Je dis « je vais aller travailler pour me faire la thune dont j'ai besoin pour vivre dans la collectivité et la communauté que j'ai choisie. » Point barre. Vous voyez, le travail chez ces cadres est devenu essentiellement utilitarisme, le messianisme sur le bonheur de l'entreprise. Il s'est évanoui à la fin des 30 Glorieuses.
Une question d'Olivier Duhamel, puis Olivier Pastret.
Juste, la thune, qu'est-ce que ça a de propre au cadre? Est-ce que c'est pas toute notre société qui est devenue sous l'empire de la thune?
Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que j'essaye simplement de dire, c'est que cette catégorie qui justement jusque-là était réputée avoir une vision qui était une vision de l'avenir de l'entreprise et y travailler, elle a aussi décroché de cet aspect des choses. Et comme vous le notez très bien, elle a rejoint l'ensemble de notre société autour de cet aspect extraordinairement utilitariste du travail, ce qu'elle n'était pas à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire comme ça.
Olivier Pastret.
Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. Il n'y a qu'un truc qui me choque et qui me choque de manière significative, c'est le titre. La fatigue des élites et comme sous-titre, le capitalisme, c'est cadres. Élite et cadre, pour moi, ça n'a aucun rapport. Les cadres ne font plus partie de l'élite depuis très très longtemps. Et de ce point de vue-là, il y a deux problèmes que vous abordez dans le livre, mais qui n'a pas été abordé dans le débat. Un, c'est l'homogénéité des cadres. En fait, il y a des catégories de cadres extrêmement différentes. Les cadres moyens sont en crise et malheureux depuis le début des 30 Glorieuses. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise des cadres sup. Mais encore une fois, je ne crois pas que la catégorie des cadres soit homogène. Et deuxièmement, je ne crois pas que ce soit un phénomène nouveau. Encore une fois, les 30 Glorieuses, on parlait à l'époque des cadres. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, à part que les cadres sup ont peur? C'est la seule chose que je trouve de nouveau.
François Dupuy.
Moi, je suis en désaccord profond avec vous dans ce que vous dites là.
Si.
Parce que je ne crois pas justement que ça soit une crise des cadres sup. Moi, vous voyez, dans le livre, je dis, un de ces jours, on n'aura plus que les experts à qui on ne demandera pas un attachement spécial à l'entreprise, on leur demandera de faire ce qu'ils ont à faire en tant qu'experts. Ça durera ce que ça durera, et c'est très dangereux parce que l'expert d'aujourd'hui sera le chômeur de demain. Et puis, d'un autre côté, il y aura ce que moi j'appelle les cadres sup survitaminés, au bonus surgonflés, au plan de retraite en béton. Alors, vous voyez, ceux qui sont en train de se faire engueuler, là, parce que je sais pas quoi, ils touchent trop, etc., etc. Donc, je suis de votre avis pour dire que le monde des cadres est dualisé. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une crise des cadres sup. Par contre, moi, je crois, vous voyez, qu'il y a une crise profonde de toute cette masse d'encadrement. Parce que c'est toute cette masse d'encadrement à qui on a fait faire chez nous les écoles de gestion, les écoles d'ingénieurs, qui se voyaient partis à l'origine pour être effectivement dans une situation privilégiée dans l'entreprise et qui se retrouvent aujourd'hui, comme le disait Olivier Duhamel tout à l'heure, comme l'ensemble des salariés. Et on voit bien qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ils en adoptent plus ou moins les mêmes comportements. D'ailleurs, je voulais juste faire une remarque. Ceci se traduit d'ailleurs dans les éventails de salaires. Il y a encore 30 ans, si on prenait le salaire ouvrier et le salaire cadre, le ratio était de 1 à 5. Il est tombé aujourd'hui de 1 à 2,5. Et c'est cette catégorie-là que, pour le dire ainsi, moi je vois dans mes amphis, puisque ce que j'écris là, je l'ai tiré d'un enseignement à près de 25 000 cadres, qui est une catégorie qui désinvestit, qui n'est pas très intéressée par ce qu'elle a à faire, qui ne fait aucune illusion sur la formation formation qu'on lui apporte, qui est une formation déconnectée de la réalité. Là-dessus, encore une fois, je renvoie
à Lisbert. Vous avez un regard très critique, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle les business schools et le management, pour employer des termes anglicistes.
Oui, mais voyez, parce que, comme je le dis dans mon livre, quand des entreprises d'un certain point de vue, parce qu'elles sont elles-mêmes perdues, utilisent des slogans qui n'ont même plus de contraire, vous vous dites que qu'est-ce que les gens entendent. Quand vous entendez une entreprise qui dit, ah ben, vous savez, nous, notre stratégie, c'est d'être l'opérateur de référence dans notre secteur. J'ai pas encore trouvé celle qui me dit vouloir être l'opérateur de répulsion. Donc, vous dites ça, bon, il n'y a pas de contraire, les mots perdent leur sens. Et alors, si les mots perdent leur sens, tout perd son sens, n'est-ce pas?
Est-ce que vous ne croyez pas que c'est pas un problème des cadres, c'est un problème des grandes entreprises? Est-ce que c'est pas une crise des grandes entreprises aujourd'hui? Moi, j'ai rencontré beaucoup de cadres dans les PME qui travaillaient évidemment 100 heures par semaine, mais qui étaient assez heureux.
Oui, alors bien sûr, nous on a tous la tentation du small is beautiful. Hein. Moi je dis en matière d'organisation, small is not beautiful. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de dire que c'est un problème des entreprises. Enfin, l'entreprise est une réalité, comment dirais-je, si vous la déconnectez des hommes, qui n'existe pas. Donc, on revient à notre propos initial, vous avez une transformation profonde du monde économique. Et là où je serais complètement d'accord avec vous, les entreprises elles-mêmes, ce que vous appelez les entreprises, c'est-à-dire les dirigeants, ils sont perdus en face de ça. Ils sont complètement perdus. Et comme ils sont perdus, ils ne font qu'en rajouter un petit peu au phénomène que je viens de décrire. Par exemple, on se dit, mon Dieu, il faut garder tout ça sous contrôle. Donc, je vais créer des indicateurs. Alors, vous n'imaginez pas les indicateurs dans les entreprises. Plus personne ne s'y retrouve aujourd'hui. Quand vous dites aux gens, mais quels sont les indicateurs sur lesquels vous êtes évalués? Ils savent pas. Quand vous dites au DRH, dites donc, qu'est-ce que vous avez comme indicateur chez vous? Ils savent pas. Plus personne ne sait. Mais chacun en rajoute, etc. C'est vraiment un phénomène de confusion générale, même si, pour le propos, j'exagère un peu quand je dis ça. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une crise des grandes entreprises. Dans les entreprises petites et moyennes, eh bien, c'est vrai peut-être que on peut y être un petit peu plus heureux. Vous avez raison, hein, c'est la crise de la grande entreprise. En même temps, la nécessité de passer d'une logique dans laquelle vous avez bâti votre organisation autour de vos problèmes à vous, à une logique dans laquelle vous bâtirez votre organisation autour du client, celle-là, même les plus petites entreprises n'y échappent pas. Et même dans ces plus petites entreprises, ça va rendre plus dur le travail.
Olivier Duhamel.
Je sais bien que, comme disait Edgar Faure, on ne peut prévoir que le passé, mais quand même, est-ce que cette fatigue d'être soi, pour reprendre donc l'expression que vous avez citée, est-ce que cette fatigue des élites, disons des cadres, que vous nous décrivez, est-ce que c'est un mouvement long, lent, irrémédiable? Est-ce que c'est foutu, terminé, cuit? Ou est-ce qu'on peut imaginer, et si oui, comment, des transformations de la société qui leur redonnent ce, dans le fond, qu'il y a de plus vital, l'estime d'être soi?
On arrive à la fin de votre livre.
Oui, d'accord. Non mais oui, voilà. Effectivement, il faut se poser cette question. Hein, je crois, vous avez raison. Alors, est-ce que tout est foutu? Personnellement, je ne le crois pas. Est-ce que des transformations de la société vont venir interférer? Alors ça, j'ai du mal à répondre à cette question. Je dirais, il y en a une qui pourrait interférer, qui est le retournement du marché du travail. S'il y avait un vrai retournement du marché du travail et une vraie rareté de la main d'œuvre, ça, il est sûr que ça changerait des choses. Mais par contre, ce que je dis, et qui me semble important, c'est que pour le moment, les entreprises commence à comprendre le phénomène, mais n'ose pas ouvrir la boîte à Pandore et le traiter. Car les entreprises disent, mon Dieu, si je commence à dire que nous avons un problème collectif avec les cadres, alors là, où allons-nous, collectif et cadre, si nous acceptons d'accoler les deux mots, où est-ce que nous allons aller? Et pourtant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a deux ou trois pistes. Alors, si j'ai 30 secondes, je vais en citer une, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de spécialistes. Or, parce que les entreprises en ont besoin, bien entendu. Or, les spécialistes, vous voyez bien qu'avec l'évolution des savoir-faire et des technologies, vous êtes un très bon spécialiste aujourd'hui, dans 15 ans, vous serez peut-être laminé. Donc, ce que vous pourriez dire, c'est que dans le fond, aujourd'hui, la définition d'un emploi, elle ne se fait que dans un sens, de façon unilatérale, à partir du besoin de l'entreprise. L'entreprise a un besoin, elle exclut un emploi, elle embauche quelqu'un. Vous pouvez dire, attention, on pourrait aussi penser à définir des emplois, non seulement en fonction des besoins de l'entreprise, mais en fonction de celui qui va l'occuper. Donc vous dites, vous, je vous embauche comme spécialiste parce que j'en ai besoin. Vous êtes à 60% sur un job qui est spécialiste, mais je paye 40% de votre boulot qui n'a rien à voir avec ce que vous faites dans votre travail de spécialiste. Donc, acceptons tous ensemble de redéfinir les emplois. Vous voyez, ça amènerait à une toute autre politique de gestion des ressources humaines dans les entreprises qui ne serait plus pensée simplement par rapport à leurs besoins immédiats, mais qui dirait, par rapport à ces populations-là, je peux leur offrir une nouvelle forme de protection qui n'est plus une protection bureaucratique, mais qui est une protection par rapport à ce qui est devenu le marché du travail.
Olivier Pastret.
Oui, vous êtes déprimant. Moi, je suis d'accord avec Olivier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils font la révolution ou est-ce que ils vont dans la Larzac et qu'ils plantent leur tomate? Vous pouvez pas ne pas esquisser des pistes. On voit bien que avant tout le monde avait 16, aujourd'hui tout le monde a 8 et que c'est très angoissant. Comment on fait pour avoir la moyenne?
François Dupuy.
Mais pourquoi suis-je déprimant? Je suis pas déprimant. Je constate. Voyez, moi je vais vous dire.
Ça, c'est le reproche
une dépression. Il constate que le cadre sont déprimés, c'est pas pareil.
Non, mais je vais pas me défendre comme ça.
Je suis un peu de bonne humeur.
La positive attitude, il va me faire. Non, excusez-moi, non. Non, écoutez-moi. Vous constatez, tout le monde parle du mot de globalisation. Il dit n'importe quoi autour de ça. Moi, je dis, écoutez, on va être modeste, je vais vous en montrer une conséquence directe dans la vie, au travail, d'une population peu visible qui s'appelle les cadres. Bien. Alors, bon, on peut dire, c'est vrai que ça les frappe. Vous voyez, vous pouvez pas penser que vous avez passé 50 ans à protéger les gens, et à un moment donné, vous leur dites, vous savez, je peux plus vous protéger comme avant, mais en plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous devez rigoler. Ben non, ils rigolent pas. Ça se passe pas comme ça, la vie. Donc, à partir de ce moment-là, je suis désolé, c'est extrêmement terre-à-terre, c'est dans l'organisation quotidienne du travail qu'il faut aller trouver quelques solutions. J'en ai proposé une, n'est-ce pas? Voilà. De la même façon que j'en propose une autre, quand je dis, arrêtons de considérer de rémunérer que les carrières qui sont des carrières ascendantes. Il va falloir qu'on arrive à accepter des carrières qui sont des carrières horizontales, n'est-ce pas? Et se dire que tout n'est pas destiné à monter, que l'on peut passer d'un job à l'autre, etc. Et que ça constitue néanmoins une promotion horizontale. Voilà, on va organiser le travail d'une façon différente. Et il y a de l'espoir dans les nouvelles formes d'organisation du travail.
On ne va pas écouter la chanson de Laurie, mais une question d'Olivier Duhamel.
Non, là, c'est pour pinailler, parce que ce titre, j'y reviens, des élites, il est de vous ou il est de votre excellent éditeur? Parce que c'est quand même les élites. Attendez, il y a les élites politiques, il y a les élites médiatiques, il y a les élites artistiques, il y a les élites sportives. Elles sont d'abord pas toutes fatiguées. Et vous êtes quand même sur les cadres.
François Pardon Dupuy. De pinailler. Oui, bah écoutez, je vais pas me défausser sur mon éditeur quand même, n'est-ce pas? Ce serait pas gentil.
Bah, c'est bien, il le couvre, même si c'était l'éditeur, il le couvre. Alors ça, c'est bien.
Une réponse.
Oui. Non, c'est bien. Excellent éditeur au demeurant.
Merci.
Thierry Pêche, c'est ça?
Oui, Thierry Pêche. Oui.
Excellente collection également.
Et je pourrais me permettre de dire que Thierry Pêche a fait sur ce livre un boulot remarquable. Non, n'est-ce pas, si on l'a intitulé « La fatigue des élites », c'est pour deux raisons, pour être franc. C'est d'abord parce que le mot « cadre » aujourd'hui est un peu usé, hein, n'est-ce pas. Il est bon, c'est pas très facile. Et puis, la deuxième chose, c'était pour montrer cette catégorie qui s'est perçue dans l'entreprise comme une élite. Voyez, vous vous souvenez quand on construisait ces cités industrielles, et puis en cercle, selon le rang que vous aviez, vous habitez telle maison, à tel endroit, etc., et on dit, mais c'est à ce moment-là que les élites habitaient dans cet endroit-là. Et elles sont aujourd'hui fatiguées, ces élites, et elles arrêtent d'être des élites.
Et est-ce qu'on peut au-delà dire que, dans le fond, je pinaillais pas tellement que ça, c'est-à-dire qu'il y a du vrai, que vous vous focalisez à juste titre, et c'est ça, c'est passionnant, parce que vous faites un travail de sociologue sur les élites, sur ces élites-là, mais que, dans le fond, c'est un phénomène plus large, parce que, finalement, par exemple, la domination de l'actionnaire et du consommateur, pour prendre juste cet exemple qui est un point central dans votre livre, c'est quelque chose dont on pourrait montrer que ça affecte aussi les autres univers. Oui.
D'ailleurs, vous savez, un de mes collègues qui a publié un livre dans cette petite collection, qui s'appelle François Dubé, m'a envoyé un petit mot très sympa, mais en me disant, vous savez ce que vous décrivez pour les cadres, moi je l'ai rencontré dans d'autres milieux. Donc, puisque lui n'est pas du tout un spécialiste de...
Je pense à un spécialiste de l'école qui est venu ici d'ailleurs.
Voilà, qui était invité de Nicolas Demorand il y a quelques semaines.
Oui, tout à fait. Il m'a dit, dans le fond, sous des angles différents, sous des populations différentes, nous observons à peu près la même chose.
François Dupuy, puisqu'on s'arrête sur la collection et son directeur, en tout cas Pierre Rosanvallon, s'exprimait récemment sur l'objectif de cette collection. Il disait que son but était de réécrire le Capital de Marx. Ça veut dire que cette lecture en termes de lutte des classes, puisque vous parlez des élites, puisque vous parlez des cadres, elle n'est plus pertinente aujourd'hui? Ces catégories, ces outils conceptuels ne sont plus opérants?
Non, je crois. D'abord, regardez la modestie du propos, parce que il dit l'objectif c'est de réécrire le Capital, mais
vous voyez, vous avez écrit un chapitre.
Vous voyez combien on s'y met pour le faire, si vous dites.
C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas nous.
Non, c'est Pierre Rosanvallon qui l'a dit.
Je veux dire la modestie du propos, c'est vous qui l'avez dit.
Oui. Merci. Bon, non, écoutez, la lutte des classes, c'est-à-dire pas en tous les cas, pas à son sens traditionnel. Il est vrai, vous l'avez tous dit, qu'aujourd'hui, il y a une financiarisation de la société, avec donc des groupes dans cette société qui cherchent à s'attribuer la plus-value de façon directe et immédiate contre le reste des forces productives. Ça, on peut dire quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si ça s'appelle, moi, la lutte des classes. Je dis même, alors, je vais vous dire pourquoi je sais pas si ça s'appelle la lutte des classes. Ça pose des problèmes aux patrons. Mais ça pose pas des problèmes qu'aux salariés, ça pose des problèmes aux patrons. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça la lutte des classes? J'en sais rien.
Point d'interrogation. Olivier Bastret.
Je vais continuer dans mon lorisme primaire, parce que je pense que c'est utile. Tout ce qui tourne autour de l'intéressement, la participation, la participation des cadres au capital des entreprises, ça vous semble une bonne solution ou pas?
François Dupuy. Le phénomène de base, bien sûr que chaque fois on essaye de trouver des solutions de ce type, n'est-ce pas, qui sont des solutions que moi j'appelle inclusives, c'est-à-dire les moutons s'étant égarés, on essaye de trouver quelque chose pour les ramener dans le parcage, quoi, grosso modo. Mais il n'en demeure pas moins que si vous regardez les chiffres les plus hardes, vous voyez, tant que on a été dans la période des Trente Glorieuses. Dans le partage de la plus-value, le travail a été extrêmement privilégié. Vous voyez, jusqu'à la fin des années 70. C'est ce qui a d'ailleurs a permis de voir les salaires augmenter, le niveau de vie augmenter, etc.
Vive Keynes.
Oui,
c'était le keynésianisme.
Oui. Et puis, à partir des années 80, eh bien, ça s'est renversé. Et aujourd'hui, le partage de la plus-value se fait quand même grandement, fortement, au profit du capital.
D'où l'intérêt que les cadres soient associés au capital.
Bien entendu.
Moi, j'y crois beaucoup. Je dis pas que c'est bien fait.
Pour les cadres, pas pour les autres.
François Dupuy.
Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est ce que font toutes les entreprises avec des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués, des systèmes... Mais sauf que ces systèmes qui sont extrêmement sophistiqués, vous savez, tous les systèmes de stock options, mais il n'y a pas que des systèmes de stock options, si on rentrait dans les détails, je pourrais vous en citer qui sont plus complexes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ils commencent quand même à se heurter à une difficulté. Olivier Duhamel disait tout à l'heure qu'on prédisait plus facilement le passé que l'avenir, et vous avez bien raison, ils sont tous quand même basés sur une montée de la bourse. Or, aujourd'hui, les phénomènes boursiers sont devenus tout aussi erratiques que les phénomènes capitalistes en général. Et par conséquent, ces systèmes d'intéressement se retournent quelquefois contre ceux à qui ils sont censés bénéficier.
Alors, il y a un autre sujet sur lequel vous travaillez, François Dupuy. La flexibilité subie dans un très nombre de cas, vous proposez de créer les conditions de ce que vous appelez une mobilité apprenante. Revenir sur les échecs de la formation continue. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, d'abord, quand moi je parle des échecs de la formation continue pour les cadres, ici il faut faire un petit détail, un petit détour. Vous voyez, les disciplines que l'on appelle du management, moi je dis pas les sciences du management, je dis les disciplines qu'on appelle du management, parce que faut pas exagérer non plus, quoi, grosso modo. Bien. Eh bien, ces disciplines sont très inspirées des sciences sociales américaines. Or, les sciences sociales américaines se sont, comment dirais-je, complètement glacifiées dans les années 50-60 et se sont tournées vers l'élaboration de modèles qui sont purement quantitatifs ou des modèles qui sont purement prescriptifs, normatifs et substantifs. Donc, elles ne se sont absolument pas tournées vers donner des capacités à apprendre et vers des méthodologies. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans les business schools, mais dans toutes les business schools, on apprend aux gens ce qu'ils devraient faire. On leur dit, voilà, dans telle situation, ce qu'il faut faire quand vous avez A fait B, quand vous avez des faits C, etc., etc. Donc, on est devenu extrêmement normatif et prescriptif et quantitatif. Mais ça vous apprend pas à vous débrouiller avec la complexité de la vie, quoi, hein, pour le formuler ainsi, n'est-ce pas? Et donc, les cadres l'ont très, très, très vite compris. Et à partir du moment où ils l'ont compris, d'ailleurs, vous le voyez bien, dans les business schools, on vous utilise des cas, vous avez le cas qui a été écrit à Harvard en 1948, et puis la réponse est toute faite, et puis la réponse réponse vous est donnée, et c'est très bien, vous l'avez trouvée, ou comme je dis, on vous prend un groupe de cadres moyens, et on les met aux commandes de l'économie britannique, et vous avez 3 heures pour réduire l'inflation, réduire le chômage, augmenter la croissance, etc. Moi, je suis sûr que Tony Blair, il serait ravi de faire ce stage, si vous voulez, parce que, au bout de 3 heures, il aurait quand même sauvé la Grande-Bretagne, ce qui serait pas mal. Donc, une fois que vous faites ça, et que vous dites au gars, mais vous savez, ça c'est très adapté à la réalité, il a un doute. Vous voyez, et alors, comme il a un doute, les entreprises vont se tourner vers ce que moi j'appelle, avec en anglais, le should management. Vous voyez, should, ça veut dire vous devriez. Donc on explique aux gens, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Oui, mais la réalité est autre. Bon, mais alors, qu'est-ce que vous laissez cadre, ils commencent à comprendre qu'entre ce qu'on leur explique d'un côté et ce qu'est la réalité d'autre part, il y a un léger gap. Et bien, quand ils voient le gap, ça perd sa crédibilité. Pire. Excusez-moi, un dernier mot. On lui dit, mais alors, c'est un problème de leadership. Ah, si c'est un problème de leadership, c'est bien. On leur dit, regardez, si Jack Welch a bien réussi, vous devriez faire la même chose. Mais vous savez, il est unique. Alors, à vous de vous débrouiller avec la contradiction, il faut faire comme lui, mais il est unique. Alors, moi, je sais pas comment il faut faire pour être Jack Welch, voyez. Et j'ai souvent tendance à dire, et je le dis dans mes amphis, faites attention, parce qu'après le leadership, il ne reste plus que Dieu, et je ne suis pas sûr qu'ils veulent se mêler de l'affaire.
Eh ben, très belle conclusion, en tout cas, François Dupuis. La fatigue des élites, le capitalisme et ses cadres, c'est publié aux éditions du Seuil, un texte court et passionnant à lire, à débattre.